le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue au Cinérama. Aujourd'hui, un air de vacances, Marine. Au contraire, tout simplement parce que nous allons parler de camping.
Camping 3, oui. Alors, et attention, ça va être une exclusivité mondiale car il n'y a eu aucune projection presse d'organiser, d'autoriser. Je suis la seule en France à avoir vu Camping 3 en avant-première et je vais vous en parler. Et je vous parlerai aussi d'un autre film qui n'a rien à voir avec les vacances, c'est L'Outsider de Christophe Baratier sur le monde de la finance.
Alors autant tu as pu toucher...
J'ai personne.
Si, Franck Dubosc. Non, tu n'as pas touché. Ok. Manu, tu vas nous parler de quoi ?
Bah, de poissons, on va dire. Pas de poissons. Du monde d'Henri et puis du secret de la banque. Le secret de la banquise, oui, c'est ça. Le secret des banquises qui met en scène des pingouins.
Voilà, une comédie romantique avec des pingouins. Donc, ouais. Parce que c'est inattendu.
C'est assez inattendu.
Ouais. Et puis, eh bien, moi, je vous parlerai de Tout de suite maintenant, film de Pascal Bonitzer. Et puis, on écoutera eh bien, une interview de Christian Jiménez, qui est un auteur chilien, réalisateur de Voix Off, qui sort le mercredi 29 juin. C'est Cinérama qui débute donc avec ce grand film de l'été, Camping
3.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Patrick Chirac, le héros de Camping 1 et 2, revient 10 ans après le premier opus au camping des Flots Bleus. Alors malgré qu'il commence un peu à vieillir, hein, Patrick est toujours aussi fringant, bien décidé à retrouver ses vieux amis et à partager pastis, pétanque et bonne humeur. Mais c'était sans compter l'arrivée impromptue de 3 étudiants qui s'incrustent dans son quotidien bien ordonné. Alors attention, sachez quand même que l'idée de base du scénario de ce Camping 3 a été suggéré à Franck Dubosc par Kev Adams. Ça vous donne une petite idée du niveau.
Mais fais pas la tête, monsieur.
Je fais pas la tête, c'est juste que moi, au départ, quand j'ai tapé Vanessa pour covoiturage, c'était pas pour tomber sur les 2B3.
Les quoi ?
Les 2B3. Un très bon groupe des années 90. Genre les Beatles. Sauf qu'ils sont 3.
Enfin, ils étaient 3.
Moi, j'ai arrêté d'écouter de la musique à la mort du chanteur d'Oasis.
Il est pas mort, le chanteur d'Oasis.
Quoi ? Il est pas mort, Carlos, Patrick. Il est pas mort.
Hey, Carlos. Oasis, Oasis, oh. Oasis, Oasis, ah. Mais qu'est-ce que tu bois de tous tes dents? Mais tu veux pas leur chanter quelque chose, là?
A cappella?
Non, ici.
Eh oui, la chute est là.
Ah, j'avais oublié cette bonne blague, ça fait toujours rire. Alors, ce troisième camping est à nouveau réalisé par Fabien Otteniente. Et comme chacun le sait, Otteniente et Dubosc, bah c'est un peu Scorsese et DiCaprio, Clapiche et Romain Duris, Tim Burton et Johnny Depp. Alors pourquoi changer une équipe qui gagne du fric ? Autant trouver un scénario prétexte et bidon et mettre le plus de has-been possible dans un film inutile, sans rythme, ni humour, ni idée, mais dans lequel vous croiserez quand même Gérard Jugnot, Michel Larocque, Claude Brasseur, Mylène de Mongeau. Dommage qu'on ait quand même pas eu droit au retour de Mathilde Seigner. Alors bizarrement, les 3 petits jeunes qu'on a du coup entendus dans le trailer sont les seuls qui jouent correctement, mais ils n'ont pas eu droit à leur nom sur l'affiche. Hein. C'est comme ça. Alors je pense que c'est le film le plus triste que j'ai vu depuis longtemps. Je ne sais pas si vous voyez ces vieux clowns qui ne font rire personne parce qu'ils continuent à faire les mêmes blagues depuis des années et que ça en devient pathétique. Eh bien Camping 3, c'est exactement ça. Alors il y a une volonté, un manifeste de la part de Dubosc, qui a beaucoup participé à l'écriture, de donner ce côté mélancolique à ce personnage de quinca qui refuse de vieillir. Et sincèrement, après toutes ces années, il continue de porter le personnage de façon très convaincante. Simplement, eh bien, dommage qu'on ne lui ait pas écrit de bons dialogues. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la mise en scène catastrophique de Otteniente derrière tout ça. Et ça, c'est de toute façon irrattrapable. Il y a notamment cette scène qui résume alors bien toute la mentalité hyper rance du film. Franck Dubosc, à un moment, commence à faire la morale aux 3 petits jeunes en leur expliquant qu'ils n'ont pas conscience des vraies valeurs, qu'ils n'ont plus conscience des vraies valeurs, qu'à force d'être annihilés par les réseaux sociaux, ils ont perdu toute notion d'humanité, sachant quand même que le personnage justement de Dubosc est ouvertement homophobe, raciste, misogyne, qu'il passe ses vacances à essayer de se taper des nanas de l'âge de sa fille et qu'il proclame ouvertement vouloir rester chômeur le plus longtemps possible. Voilà, alors tout le film, c'est ça. Donc c'est un enchaînement des gags les plus éculés qu'on puisse trouver, le tout saupoudré comme ça d'une morale bien pensante, mais à vomir, C'est une honte pour le cinéma français, pour la culture populaire française. Ce film devrait être considéré comme du terrorisme, tout simplement. Voilà. Ah, n'ayons pas peur des mots. Voilà, ah, n'ayons pas peur des mots. Le mot est lancé.
Ah, mais c'est déjà tweeté.
Le mot est lancé.
Tu sais que Luc Besson a dit qu'un film était un objet gentil. Hein, donc,
Un film est un objet gentil.
Oui.
Oh mon Dieu. Ce film est un objet périmé. Vraiment, il faut le ramener en magasin tout de suite. C'est avarié. Voilà, c'est Camping 3, voilà. Donc bah, ça sort aujourd'hui, c'est alors, tout frais.
Sachant que c'est une trilogie, est-ce qu'il y avait au moins... moi, j'ai vu que le premier, est-ce qu'il y avait au moins un des campings qui était...
je sais pas.
Mais justement, moi, j'ai vu que le 3, inversement.
Ah.
Mais je pense que le premier avait au moins l'avantage d'être, comment dire, un peu nouveau.
Frais.
Enfin, voilà, de mettre justement ce personnage de Patrick Chirac en avant. Et à mon avis, ça portait tout le film. Là, c'est plus assez, en fait. Enfin, ce simple personnage qui est pourtant très drôle, hein, ça ne suffit pas, en fait, à construire tout un film autour.
Il y avait le personnage de Lanvin aussi. Hein. C'est qu'il était en contrepoint de Lanvin.
Ah oui, mais ils n'ont plus que Claude Brasseur et Junio, quoi. C'est fini.
Voilà, donc c'est Camping 3, c'est avec Franck Dubosc, évidemment, et ça sort le 29 juin, eh oui, juste avant les vacances.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va garder ça.
Alors, la plupart des comédies contemporaines, puisqu'on en parlait, hein, surtout françaises, hein, se suivent et se ressemblent. Elles souffrent souvent de scénarios préfabriqués, navrants de conformisme et de mise en scène au rabais, sans style, comme si le genre devait se passer d'élégance. C'est bien un des problèmes de la comédie, c'est que les mises en scène sont souvent absentes. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'à une époque, c'était vraiment... les films de Black Edwards, de War Rocks, misaient énormément sur le style visuel, je parle. Alors évidemment, hein, entre Adopte un veuf, Retour chez ma mère, Les Visiteurs 3, Camping 3 justement, et tant d'autres. Alors un film, c'est vrai, comme La Loi de la Jungle, hein, tient revanche du miracle par sa drôlerie, son intelligence et son ton libertaire. Ce qui pouvait aussi arriver à Ce secret des banquises, premier long métrage de Marie Madinier, compte tenu de l'originalité plutôt bienvenue du pitch. Alors Christophine, hein, drôle de prénom, hein,
ouais,
il s'appelle Christophine,
ça part bien quand même, hein.
Est une jeune thésarde un peu gauche et très émotive, hein, une sorte de Pierre-Richard juvénile. Alors un peu effacée aussi, d'ailleurs personne n'arrive à se rappeler de son prénom, qui se transforme en Claudine, Caroline, Pauline, bref, tout ce qui se termine en « in ». Alors cette jolie petite frimousse, hein, croisement juvénile hein, d'ailleurs entre Audrey Hepburn et Audrey Tautou, voue une admiration sans phare au professeur Quignard, chercheur émérite, étudiant la PPM. Qu'est-ce que la PPM ? Eh ben, c'est une protéine immunisante produite par le pingouin. Par dévotion et amour, surtout envers le professeur, Christophine décide de s'injecter elle-même du génome pingouin pour l'aider dans ses recherches. Et un peu plus si affinité, car elle est, on va dire, secrètement amoureuse de lui. Alors, coïncidence heureuse, hein, le professeur découvre que c'est en faisant l'amour que la protéine devient réellement efficace, ce qui nous vaut une jolie séquence coquine très bien filmée entre l'héroïne et un employé amoureux d'elle. On écoute un petit extrait.
Christophine, qu'avez-vous fait hier soir ?
J'ai couché. Un peu.
Avec qui ?
Un garçon.
Mais encore.
Siegfried.
Des éléments notables ou significatifs ?
Non. C'est un moment d'égarement qui ne signifie rien.
Durée du rapport ?
Je dirais... 2h30.
Mais là, bah oui, c'est la séquence est assez drôle. Hein.
Oui. Alors raccourci, hein, parce que les silences sont beaucoup plus longs.
Oui, oui, parce que il y a énormément de jeux sur la mimique de l'actrice
dire, voilà.
Qui n'ose pas le dire. Enfin, voilà. Alors, mais l'injection hein, n'est pas justement sans effet secondaire. En effet, la jeune femme est en train aussi de muter, de se transformer en pingouin. Alors, j'avoue, j'en ai un peu trop dit, car cet élément arrive au bout de 50 minutes du film.
Ah bah là, tu continues à en dire plus.
Mais c'est pas grave. Bon, c'est bien dommage. Bon, on s'en doute assez vite. Hein. Alors, c'est dommage, car cette rom-com toute mignonne aurait pu exploiter le potentiel à la fois délirant et angoissant de son histoire insolite. Hein. Il n'en est rien. La jeune réalisatrice signe un premier film, on va dire sympa comme tout, souvent nunuche, qui se regarde sans déplaisir ni passion. C'est d'autant plus frustrant que la réalisatrice n'est pas sans talent. Hein. La mise en scène est élégante, les acteurs tous bien dirigés, y compris les seconds rôles. Le décor glacial du centre de recherche très bien exploité. Il y a aussi d'excellentes idées, comme celle d'enfermer tous les personnages dans ce lieu clos, comme si l'extérieur n'existait pas. Ce choix renforce la petite singularité de cette love story pas banale, mais trop timorée pour convaincre, aussi bien dans sa partie, on va dire, burlesque, que dans sa partie fantastique, façon la mouche de Cronenberg pour jeune fille en fleurs. Hein. Ça fait un peu ça. Hein. Alors, la référence est un peu écrasante et pas très courtoise de ma part, mais Marie Madigné, par excès de bon goût et de retenue, rate l'occasion, je pense, de réaliser une vraie bonne comédie déjantée. C'est dommage. Mais alors après, si vous êtes comme moi un peu fan de pingouins, on peut prendre un certain plaisir à regarder le film. Hein.
En tout cas, l'atmosphère a l'air plutôt intéressante, hein, ce huis clos notamment.
C'est plutôt pas mal, mais c'est un peu trop nunuche. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait un vrai bon film. Il manque un truc dans ce film. Trop de sentimentalisme, à mon avis.
Et on peut parler aussi de sa forme plutôt courte, étriquée, hein, 1h20.
Étriquée, oui, le film dure 1h20, oui. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ça veut dire qu'il est normalement plus rythmé, j'imagine. Eh ben, ou alors, ils n'avaient pas l'argent pour...
Il n'est pas si rythmé que ça, justement. C'est qu'au bout de 45 minutes, ça patine un petit peu. Enfin, il y a des flottements. Je pense que le film... C'est peut-être qu'il manque aussi, des fois, de moyen-métrage au cinéma. Hein. Certains films devraient rester à l'état d'une heure. Et c'est dommage.
Nous allons maintenant parler de Voix Off, un film qui sort ce 29 juin.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Film de Cristian Jiménez. Alors avec son précédent film, Illusiones Opticas, Cristian Jiménez avait pu amuser en offrant un regard sur le monde moderne et celui de l'entreprise servi par une comédie, alors on pourrait dire distanciée, où régnait l'absurde. Avec Voix Off, le réalisateur chilien a abandonné la pose absurde pour une comédie dramatique plutôt bien tenue, se déroulant en famille. Nous sommes dans le sud du Chili, à Valdivia, où il pleut souvent. Voilà, c'est une des caractéristiques de la ville. Sofia, la trentaine et mère de deux enfants, cherchant la tranquillité après une rupture, a décidé de se couper de son portable pendant un an, et également d'internet et de lecture tant qu'à faire. Alors, engagée dans cette discipline, elle apprend que son père a décidé de quitter sa mère après 30 ans de mariage. Quant à sa grande sœur, elle revient à contre-cœur s'installer au Chili. Elle habitait auparavant en France. Alors, la voix off du titre, celle qui cache son visage, est le non-dit qui traverse beaucoup de familles. Ici, le père est concerné. Alors, qu'a-t-il pu cacher ? Que lui reprochent ses filles ? Qu'ont-elles à apprendre ? Cristian Jiménez fait le portrait donc de cette famille avec ses enfants, sa grand-mère, ses ruptures, ses mensonges, ses oublis, ses illusions. Il y a un décalage qui s'instaure entre les membres de la famille et l'ensemble est plutôt bien mené. On écoute Cristian Jiménez, que tu as pu rencontrer, Marine.
Je suis Cristian Jiménez et je suis le réalisateur de Voix Off.
¿Hablaste con el papá?
Relación con tu madre está media guachenta.
C'est un film que peut-être on pourrait dire qui parle de silence. Il y a toujours dans les familles des situations qui sont pas adressés, qui sont cachés, parce que les secrets sont presque jamais individuels, sont collectifs. Mm-hmm. Mais parfois, il y a, pas seulement dans la famille, mais aussi dans les pays, dans les entreprises, il y a des choses qui sont là, mais qui ne sont pas adressées avec la parole. Ce que les Anglais appellent « the elephant in the room », comme quelque chose qui est là, mais on fait comme si ça n'existait pas. Oui. On arrive à créer un décalage entre les faits et la parole.
La nourriture, elle est vraiment sublimée dans la cuisine ou même la nourriture comme les graines, enfin les haricots. Pourquoi ?
Moi, je trouve que le moment de partager la table et manger ensemble, c'est vraiment un moment de la... C'est un rituel de la famille.
Oui.
Pour moi, un conflit familial est un vrai conflit, les moments qu'on ne peut pas partager à la table.
Comme mi hermanita dijo que no le dolió.
Est-ce que parfois tu essaies de grouper sociologie et cinéma dans tes films ou pas du tout, ça fait partie de ton passé
C'est une manière de regarder le monde, c'est ma formation. Je n'ai pas eu une formation de cinéaste, j'ai appris le métier d'une manière pratique. Mais j'ai une formation de recherche, alors c'est toujours quelque chose qui est là comme une manière de regarder.
La familia. Una mujer fuerte.
Alors effectivement, ça se sent que Cristian Jiménez a bien obtenu des diplômes en sociologie parce qu'il scrute vraiment la famille alors patiemment. Il y a quand même des personnages qui sont plutôt attachants et puis il y a quelques petits passages drôles. Voilà, c'est pour ça que c'est une comédie dramatique finalement, parce qu'il y a un gros nœud dramatique dans cette famille, mais il y a aussi plein de petits éléments plutôt amusants. Voilà, c'est pas la poilade, c'est évident. Mais...
Avec un comédien français aussi, Nils Schneider.
qui, je trouve, n'a pas un rôle assez important. C'est vraiment dommage, moi, ça m'a un peu frustrée.
Qui jouait dans Diamant Noir, qui était excellent voilà. dedans, d'ailleurs.
Voilà, c'est la caution française du film. Dommage, il n'a pas un rôle un peu plus développé. Bon.
Donc, ça sort le 29 juin, voix off de Christiane Jiménez.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Et on poursuit avec L'Outsider de Christophe Baratier. En 2002, arrive à la Société Générale un certain Jérôme Kerviel. Il est passionné par la finance, il apprend vite, c'est un bon employé. Il ne va pas tarder à grimper les échelons et à faire gagner à la banque des millions pour finalement perdre plusieurs dizaines de milliards d'euros lors de la crise. L'Outsider revient sur ce qui a conduit au drame.
Si tu veux réussir dans ce boulot, il faut changer ton échelle de valeur. En bas de 100 000 euros, c'est beaucoup. Vu d'ici... Que dalle.
On parle de 30 milliards.
Quand vous me demandez des explications, je vous les donne, non?
C'est très bien qu'elles sont pourries, tes explications.
Ah ouais, alors pourquoi mes chefs les valident?
Un type qui risque 15 millions quand il est limité à 2, tu sais ce qu'on en fait?
Vous allez me virer?
Je monte ta limite de spiel à 5 millions.
J'ai joué à mort de malade. Et je veux plus vivre ça.
Estimez-vous que les contrôles ont été défaillants?
Pour la seule année 2007, on a envoyé 74 alertes au sujet du compte de Jérôme Kerviel.
Mais comment s'expliquer que personne ne s'en soit aperçu? Je m'en explique pas.
Alors Christophe Baratier, réalisateur à qui l'on doit entre autres Les Choristes, ne cherchez pas le rapport, décide ici d'adapter l'autobiographie de Jérôme Kerviel. Et plutôt que de réaliser un film à charge sur l'univers des traders, il choisit de s'intéresser sur le mode du thriller à l'enchaînement d'événements qui ont permis d'arriver à un scandale aussi énorme qu'improbable. Le film donne quelques éléments de réponse en nous immergeant de façon plutôt réussie dans l'ambiance de la salle des marchés, notamment en expliquant bien quelques-unes des manœuvres qui permettent aux traders de spéculer toujours plus. Par exemple, imaginez, vous êtes un trader et puis, mauvaise journée, vous faites perdre à votre banque 100 000 euros. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Vous allez pouvoir planquer l'incident. Vous n'avez qu'à user de la technique du spiel. Le spiel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une petite magouille, officiellement interdite, mais officieusement pratiquée par tous, qui consiste à se servir dans l'argent de la banque pour à nouveau spéculer dessus. Le temps de se refaire. Alors évidemment, c'est deux fois plus risqué, mais c'est ça aussi qui est marrant. Et justement, bien cette ambiance démesurément stressante de jeu proche d'une salle de casino est plutôt bien mise en scène. On comprend dans quel état d'esprit opèrent ces traders, cette atmosphère démesurément viriliste, voire carrément beauf, qui pousse chacun à se surpasser. Alors là où le loup de Wall Street dépeignait clairement les traders comme des bouffons accros aux gains et aux drogues, L'Outsider a un propos bien plus ambivalent, presque glorifiant à certains moments. On a quand même un peu de mal à cerner les intentions de Baratier. Kerviel est finalement montré comme un martyr de la finance qui se rend physiquement malade à force de prendre son travail trop au sérieux. Et si ses collègues se vautrent dans la débauche, les call girls et la drogue, lui est toujours montré comme un homme qui demeure pur, désintéressé, qui n'a toujours désiré qu'une chose au fond, faire gagner de l'argent à sa banque. Et ça, c'est un peu gênant. Alors si Jérôme Kerviel est montré comme une victime du système, c'est notamment à travers l'interprétation de Arthur Dupont qui est tellement bon en fait qu'il parvient à nous le rendre sympathique. Et comme le dit l'acteur lui-même, il n'a pas cherché à s'inspirer de Kerviel mais davantage à se créer son propre personnage. Et on assiste véritablement ici à l'éclosion d'un comédien qui va sans doute compter dans les prochaines années et qui est beaucoup, pour beaucoup dans la réussite du film. Quelques éléments du coup un peu gênants dans le film, mais ça reste globalement un film efficace, plutôt bien mené et plutôt prenant surtout. Et pour finir, un détail qui n'en est pas un, c'est quand même, je pense, un des premiers films que je vois où une majorité des comédiens principaux sont d'origine maghrébine sans que ce soit le sujet du film. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Voilà, surtout que ça se passe dans l'univers de la... Non, je dis, parmi tous les personnages principaux, il y a au moins la moitié qui sont d'origine soit maghrébine, soit qui sont blacks. Et je pense que c'est vraiment le premier film où justement ça n'est pas le sujet. Ça se passe pas dans une banlieue, c'est pas parmi des braqueurs, parmi des dealers. C'est justement dans l'univers de la haute finance.
Est-ce que ça correspond à...
Et en fait, c'est amené comme quelque chose de tout à fait normal. Dans les années 2010, maintenant, oui. Enfin, oui.
Je sais pas. Non, mais ce serait absurde sinon.
Je me suis même pas posé la question, en fait. Je pense que c'est quand même suffisamment documenté, justement, pour que ça soit très proche, de ce qui se passe dans la réalité.
Voilà, ouais. Parce que si c'est vraiment documentaire, alors à ce moment-là, c'est bien vu. Si c'est pas documentaire, c'est peut-être dommage.
Bah après, ça permet aussi, voilà, justement, de voir. De voir plus de films comme ça en France, où justement, oui, les comédiens d'origine maghrébine ne jouent pas toujours les mêmes rôles. Et là, après, voilà, c'est pas du tout choquant. Moi, j'ai trouvé que c'était un détail très intéressant, qui n'en est peut-être justement pas mais c'est amené de façon totalement naturelle en fait, et moi j'ai trouvé que c'était plutôt bon signe pour le cinéma français. Voilà.
En tout cas, L'Outsider est sur les écrans depuis déjà une semaine.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
C'est le cas d'un autre film tout de suite, maintenant, de Pascal Bonitzer. Alors, il est toujours bon de retrouver Pascal Bonitzer, scénariste pour Téchiné, Rivette ou Ruiz, également critique pour les Cahiers du cinéma. Bonitzer a depuis, encore en 1996, bâti une œuvre solide où le mal d'âge mûr, désenchanté, souvent partagé entre plusieurs femmes, sert de prétexte à observer les autres et le monde. Et parfois le nombril. Mais pas de généralité, même si c'est bien la première fois que son personnage principal est une jeune femme. En l'occurrence, il s'agit de Nora, interprétée par sa propre fille, Agathe Bonitzer. Elle a la trentaine et intègre une société de fusion-acquisition dirigée par deux hommes. Alors il y a l'ambitieux et très volubile Barsac, Lambert Wilson, et l'anéanti Prévost-Paredes, Pascal Grégory. Alors s'ils étaient complices quand ils ont monté la boîte, eh bien maintenant, tous les opposés, il se trouve que ces deux hommes font des allusions alors, au père de Nora, qu'ils ont connu quand ils étaient étudiants à Centrale. Elle apprend du même coup qu'elle est la fille d'Étalingur. Moi, première fois que j'entendais ça, alors autant dire qu'elle, elle ne comprend rien et que le spectateur, eh bien, pas plus. Mais la voilà qui, à mesure qu'elle gravit très vite les échelons de cette entreprise et est promise à un bel avenir, car elle se fait remarquer par ses patrons pour son intelligence et sa vivacité, eh bien, la voilà qui se retrouve à questionner le passé. Ce sont ces deux fils que Bonitzer va tisser tout au long du film. La progression professionnelle de Nora, avec une description un peu amusée d'un milieu où tout doit aller très vite, et puis le passé de son père qui ressurgit, son père interprété par Bakri, type passablement aigri et écrasant pour ses filles.
Nora Sator, vous êtes parente de Serge Sator?
Vous avez d'autres questions?
Vous avez connu mon père?
Il avait pour moi un profond mépris.
À ton avis, tu en parles ou pas?
Un peu pas. Tu lui dis rien du tout.
Déjà, l'ambiance ce soir, j'ose pas imaginer.
Bon, et toi, ton boulot?
Oui, mais quoi?
Bah, je sais pas, t'as un nouveau boulot. Alors, est-ce que ça te plaît?
Bon, depuis quand tu t'intéresses à ce qu'on fait?
Nora, puisque le bureau à côté du mien se libère, je vous invite à vous y installer.
Maintenant?
Eh bien oui, maintenant, ça veut dire tout de suite, allez, au boulot.
J'ai un dossier urgent à traiter. J'aimerais votre expertise.
Des esclaves, voilà ce que vous êtes. Et les esclaves, c'est sexuel. Il y en a que ça excite.
Qu'est-ce que t'as fait de tes cheveux?
Ce sont cheveux que vent emporte.
Alors, on l'entend dans ce court extrait de la bande-annonce qui s'épanche tranquillement, tout de suite maintenant fait apparaître de nombreux personnages. Dans le milieu de la finance, il y a donc les deux patrons, mais surtout le personnage donc, de Lambert Wilson, et puis également un jeune homme potentiel amant, amoureux, qui est capable de dire ça.
On va te péter de thunes, on a réussi.
Arrête.
On est les meilleurs.
Arrête. Tu mouilles.
Pardon. Non, mais tu te rends compte quand même? Non, tu te rends pas compte, on a réussi ce coup-là. Réussi.
Alors on se dit que c'est un jeune loup, hein, mais il est aussi capable de balancer ça à celle qu'il convoite pourtant.
Enfin, peut-être que pour vous, la fête, c'est pas ça, c'est plutôt casser les gens pour les remplacer et aller plus haut.
Alors d'autres personnages font figure de pivot, car si Bonitzer semble nous parler de la jeunesse qui va de l'avant, il est quand même beaucoup question des sexagénaires qui ont manqué quelque chose. Alors il y a Bakri qui est pour ainsi dire dans son élément.
J'espérais que tu aurais d'autres ambitions dans la vie que de faire du fric dans une boîte de finance. Tu m'as déçu sur ce point, comme sur tous les autres au fond.
Alors profondément nuisible dans cette scène, ce mathématicien à la retraite est parfaitement infect avec ses deux filles et sa compagne. Et puis il y a alors Isabelle Huppert qui joue une partition intrigante.
Tu m'offres rien?
Ah, j'ai pas grand-chose. Du mauvais vin entamé, du thé, du café.
Pas de champagne?
Même si j'en avais.
T'as raison. Ça serait ridicule et inapproprié.
Ouais.
Va pour ton mauvais vin. C'est quoi?
Du rouge. Tourné, pas bon.
Oh, bah ça me paraît très bien. Ça me paraît correspondre parfaitement à la situation. Ouf! Je me sens mieux.
Non. Je vais chercher.
Tu peux t'accompagner?
Non, ne bouge pas.
Non.
Oh non, surtout pas. Voilà, on l'entend, il y a quand même des dialogues assez amusés. Alors il ne s'agit donc pas pour Bonitzer, avec ce film, de se limiter à décrire le monde de la finance. Ça, L'Outsider s'en charge avec, avec les traders, le réalisateur s'intéresse davantage à son héroïne et sa quête d'identité, elle qu'on nomme donc la fille d'État Lingure. Alors dans un mouvement délicat, elle va apprendre ce qui la constitue d'une certaine manière, au moyen d'une mise en scène précise qui accorde une importance au jeu des acteurs avec une caméra qui sait aussi se tenir tranquille. Il faut remarquer alors qu'il s'agit d'un bon casting, mis à part Agathe Bonitzer, que moi j'ai jamais trouvé vraiment intéressante.
Bah, en là. Même temps, comme c'est son père qui fait le film.
Oui, mais bon. Alors ce qui ne l'empêche pas hein, d'incarner ici une fille apparemment froide et puis sourde aux sentiments, moi j'avoue qu'elle ne m'a jamais vraiment intéressée. En revanche, il y a Vincent Lacoste, Lambert Wilson, Jean-Pierre Bacri, Isabelle Huppert, enfin voilà.
Isabelle Huppert, oui. Encore.
Oui.
Il n'y a pas un film sans elle actuellement en
effectivement,
France. Hein.
Même
effectivement.
Camping 3, même elle est... Oui, elle est même dedans. Non, mais non, c'est une blague. Mais...
Et là, ils l'ont même rajeuni, je trouve. Alors la lumière, voilà, ils l'ont rajeuni, ils ont mis voilà, une petite couche de maquillage, voilà, pour faire passer justement tout... Alors j'imagine que ces acteurs, ils ont plus de la soixantaine, mais pour les faire basculer plus un peu avant. Voilà.
Oui, parce qu'ils seraient tous à la retraite, logiquement,
oui,
en fait.
C'est ça. Enfin, là, il y en a un qui est à la retraite, c'est Bacri. Voilà, tout de suite maintenant de Pascal Bonitzer, film vraiment, vraiment, vraiment bon à regarder.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
On va terminer avec le coin des enfants, puisque le Pixar, on va dire estival, hein, le monde de Dory. Donc retrouver 15 ans après l'univers du très beau monde de Nemo. Hein, j'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu en 2002.
Mais tu n'es pas le seul.
Voilà. N'est pas une mauvaise idée en soi, surtout lorsque les auteurs, plutôt que de donner une suite aux aventures du petit poisson rouge, je ne me souviens plus du nom de ce poisson d'ailleurs, préfère se focaliser sur Dory, le poisson chirurgien bleu ayant quelques petits problèmes de mémoire. Alors le début augure le meilleur, hein, drôle, enlevé et émouvant. Les auteurs suivent donc Dory, qui est petite, hein, qui lutte chaque seconde pour se rappeler du moindre événement, à commencer par le lieu où elle habite. Elle ne se rappelle pas les chansons que lui apprennent ses parents, peine à compter jusqu'à 10, oublie les conseils de son père dans la minute qui suit. Bref, ces troubles permanents de la mémoire perturbent l'existence de Dory et de son entourage, agacé d'entendre poser toujours les mêmes questions. Alors jusqu'au jour où elle se perd pour de bon et ne parvient plus à retrouver sa famille, errant dans l'océan comme une âme en peine, elle croise par un savoureux clin d'œil au premier, un marin, le père de Nemo, qui est à la recherche de ce dernier au début du monde de Nemo. C'est assez rigolo. Et comme me faisait remarquer mon fils, il dit peut-être que c'est une arnaque, on va revoir le film Nemo du début à la fin. Mais bon, non, effectivement, ça ne se passe pas comme ça. Donc fin du prologue, un an après, Dory n'a pas changé. Sauf qu'elle décide de partir à la recherche de ses souvenirs et donc de retrouver ses parents. Elle s'embarque dans une folle aventure aquatique en compagnie là, de Marin et de Nemo. Elle traverse... Marin d'ailleurs toujours doublé par Franck Dubosc. Elle traverse l'océan, croise les tortues de mer et atterrit dans un parc aquatique où l'on comprend enfin pourquoi elle parle la langue des baleines. À la fois voyage intérieur, étant donné la nature du personnage qui doit redoubler d'efforts pour arracher la moindre parcelle de souvenirs, et voyage initiatique où se croise une multitude de créatures aquatiques toutes bienveillantes, le monde de Dory peine cependant à captiver au-delà de 30-45 minutes, enfin, du moins pour un adulte. Hein. Les studios Pixar ont perdu en émotion ce qu'ils ont gagné en efficacité. L'action est certes rondement menée, idéalement valorisée par une animation fluide et un montage alerte. C'est un peu le minimum qu'on leur demande. Hein. De ce point de vue, Pixar est toujours aussi impressionnant. Mais on sent aussi un essoufflement, une paresse. En racontant la même histoire que Nemo, mais en changeant de point de vue, le monde de Dory aurait pu s'appuyer sur toutes les possibilités narratives qu'offrait un personnage aussi intéressant. Alors les auteurs ne traitent pas en profondeur le thème de l'amnésie et toutes les angoisses existentielles qui en surgissent. Alors oui, je sais, il s'agit d'un film d'animation pour les enfants, mais la grande qualité des meilleurs Pixar est justement de proposer aux spectateurs, on va dire, différents niveaux de lecture, hein, sans passer par le second degré ou la référence à la Shrek et à des tas de dessins animés de ce style. Alors au final, cette nouvelle production de John Lasseter, qui appartient aujourd'hui, faut-il le rappeler, à Disney, hein, n'est qu'un joli plaidoyer sur le droit à la différence qui plaira beaucoup à nos chères têtes blondes, brunes et rousses aussi, parce que c'est une expression
curieuse. Oui, hein, quand même.
Alors je le conseille aux adultes pour un personnage qui s'appelle Gérard, un loup de mer complètement débile qui est aussi irrésistible que l'écureuil Scrat dans l'âge de glace. Mais encore plus débile.
Ah oui, l'écureuil Scrat. Oui. Scrat. Oui, bah oui, l'écureuil, voilà. Qu'on voit à chaque,
qu'on voit à chaque début
glace.
De l'âge des glaces. Et là, il y a vraiment un personnage de loup de mer, mais débile.
Eh bien, ils en font peut-être un spin-off bientôt.
Ah bah, oui, mais ça va être dur de tenir sur 1h30 à mon avis. Hein.
Voilà, C'est ainsi que s'achève finalement Cinérama avec ses petits conseils sur les films d'animation pour l'été et puis le camping du début de l'émission, mais qu'on n'a pas conseillé lui.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, c'était la dernière émission de cette saison. On vous souhaite de trouver du cinéma en plein air cet été.
Et on se retrouve à la rentrée!
Bien à la rentrée, bonnes vacances à tous!
Bonnes vacances!
Cinérama. Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.